Monsieur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est le Seigneur qui le dit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc le Seigneur associe la foi à la prière. Le deuxième texte est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, le verset 24. Il dit : jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, le thème de mon message, c'est les limites de la prière. Les limites de la prière. C'est vrai, le thème peut paraître paradoxal au principe biblique de la prière. Mais il y a la révélation qui se cache derrière ce thème. C'est de nous stimuler, de pousser le croyant que nous sommes à comprendre le potentiel immense qui est rattaché à la prière quand nous la pratiquons avec assiduité et puis surtout avec beaucoup de joie. Donc quand je parle des limites de la prière, pour moi, c'est de nous encourager, de nous stimuler à pouvoir rechercher le Seigneur dans la prière. Vous savez, un homme de Dieu il a dit un jour, prier c'est envahir l'impossible. Il dit prier, c'est envahir l'impossible. Vous savez, quand nous prions, et il s'agit de s'approprier les promesses de Dieu et de les voir se matérialiser. Vous savez, beaucoup proclament les promesses de Dieu dans leur bouche, mais ils n'ont jamais expérimenté la matérialisation des promesses de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas prier, ils réduisent la prière. Alors, beaucoup de croyants se posent souvent la question sur les raisons de leur régression spirituelle. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie est bizarre? Pourquoi ma vie spirituelle, n'est-ce pas? C'est pas ce que je voulais. Pourquoi? Il y a cette propension au péché, cette inclination au péché. Mes amis, des fois, on constate même que les chrétiens n'ont plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Ils ne sont plus passionnés pour les choses du royaume de Dieu. La réponse, je veux dire, réside dans le fait qu'on a abandonné une vie de prière constante. On ne veut pas prier. On veut passer le temps devant TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram. On peut passer des heures sur Facebook. Mais prier 15 minutes, c'est impossible. Et tu prétends être un enfant de Dieu. Il y a un problème. Donc, nous devons comprendre que la prière est importante. Et je sais aussi que mes amis, on vit dans une génération qui est beaucoup focalisée sur l'apparence, que sur la piété profonde. Ce que Dieu veut, ce n'est pas l'apparence. Mais Dieu veut que tu aies une piété profonde. Paul a dit à Timothée, dit, exerce-toi à la piété. Donc, la prière est un exercice spirituel. Vous savez avec moi, que l'église primitive, qu'elle est née, l'église est née dans la prière, dans la chambre haute. Et sa croissance était déterminée par la prière. Je veux dire, son épanouissement spirituel a été par la prière et l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'auteur de Actes qui dit, lui qui dit, dans Actes 9, le verset 31, il dit, l'église croissait, grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, l'Église, vous savez, les gens qui ont beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes pour faire croire leurs églises. Il y a ceux qui font, n'est-ce pas, la pêche dans la baignoire, vous savez, ils prennent quelqu'un des autres églises pour être fait dans l'Église. Non, c'est pas comme ça la croissance est faite dans l'Église primitive. La croissance se fait à travers la prière, l'intercession, le combat spirituel. Et les gens, on voit dans la parole de Dieu que l'Église a grandi ainsi. Alors, qu'est-ce que donc la prière? On va se poser la question, qu'est-ce que donc la prière? Alors, dans la parole de Dieu, quand on lit, on voit qu'il y a différents types et formes de prières. Quand on lit la Bible, on voit que, par exemple, il y a la prière d'accord. Dans Matthieu 18 verset 19, Jésus dit, là où deux sont assemblés à mon nom, il dit, s'ils s'accordent, il dit, quand ils s'accordent. Alors, le mot qui est utilisé, c'est le mot symphonia. Pour ceux qui étaient à l'opéra, comme vous voyez, l'orchestre, la symphonie, ils sont en accord, en harmonie. Donc, souvent, on dit non, quand deux ou trois sont accordés. Mais les gens, souvent, s'accordent, mais ils se font des querelles, des mépris les uns les autres dans le cœur. Dieu n'est pas vivant. Donc, la prière d'accord est une forme de prière. Il y a aussi la pétition. La prière de pétition que Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout sauf, prenez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça, c'est la prière de pétition. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intercession. Ça veut dire se mettre entre. Voilà. Tu crois, Abraham l'a fait dans Genèse 18. La Bible dit qu'il y avait son neveu Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham n'a cessé d'intercéder. Intercéder pour ses parents, pour ses amis, pour sa famille, pour qu'il soit sauvé. Donc, c'est une forme aussi des prières. Il y a les requêtes, il y a les supplications, il y a le combat spirituel, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a l'action de grâce. Il y a cette forme de prière que j'appelle l'attente. Vous savez, souvent,
dans, c'est le fait qu'on se mette souvent à genoux, on prie, on est là, on prie, on dit plein de blablabla, et puis on s'élève. Non. Mais dans la prière, il faut attendre que Dieu te dise quelque chose. Parce que tu ne peux pas te lever parce que ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc quand tu te mets à genoux pour prier, attends à ce que Dieu te dise quelque chose. Le problème avec la nouvelle génération, c'est que les gens ne sont plus ancrés à la sensibilité spirituelle. Or, il est important que Dieu te dise quelque chose. Gloire à Dieu.
Amen.
Donc, qu'est-ce que la prière? Alors, je vais vous donner quelques définitions de la prière que j'ai énumérées ici. Et après, on parlera de deux personnages bibliques qui ont triomphé au travers de la prière. Premièrement, la prière est une communion intime avec le Père Céleste dans le lieu secret. Matthieu 6:6. La prière est une communion intime avec le Père Céleste dans le lieu secret. Jésus a dit dans Matthieu 6:6, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Et il dit dans ta chambre, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Le lieu secret, c'est pas Facebook. Ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Snapchat. Passez des heures. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, mais vous ne prenez pas le temps d'aller dans le lieu secret avec le Père Céleste. Donc la prière, première définition, c'est cette intimité, cette relation que nous avons avec le Père dans le lieu secret. Il faut créer une plateforme dans le lieu secret avec ton Père Céleste. C'est vrai, on est pris par le boulot, le travail, on dit boulot, métro, dodo. Ok. Mais dans le boulot, métro, dodo, il faut qu'il y ait un lieu secret. Alléluia.
Amen.
Il faut qu'il y ait un lieu secret. Je vous en supplie. Deuxième définition de la prière, j'ai dit la prière, c'est le signe le plus certain de notre confiance à notre Père Céleste. Quelqu'un qui ne prie pas, il refuse de se faire confiance lui-même. Ça veut dire, oh, la prière est le signe le plus certain de notre confiance à notre Père Céleste. Quelqu'un qui refuse de prier, il se fait confiance à lui-même. Ça veut dire, compte. Vous savez, le système, c'est vrai que pendant mes 25 années ici, le système nous conditionne les gens à telle enceinte que les gens comptent sur le RSA. Alors, c'est RMI, non? Là, c'est RSA, c'est ça. Comptent sur le RSA, les aides et tout ça. Parce que chaque fin du mois, ça va tomber de toutes les façons. Ça veut dire qu'on est pris en clair à faire confiance au Seigneur pour nos besoins. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez par la foi en priant, vous le recevrez. Mais la société nous a conditionné qu'on ne veut plus prier. Parce que sur le médecin là, tel est là. Je ne méprise pas tout ça. Mais je vais vous emmener à comprendre que notre confiance, nous devons la placer au Seigneur. Alléluia.
Amen.
Donc la prière, c'est le signe le plus certain qu'on fait confiance en Dieu. Et dans 1 Jean 5, le verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Voilà. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas selon nos caprices, il nous écoute. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen.
Amen.
Si nous demandons quelque chose et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc la prière, c'est le signe le plus certain de notre confiance en notre Père Céleste. Quelqu'un qui ne prie pas, qui refuse de prier, c'est un péché contre Dieu. Tu pèches. Elle dit, tu te fais confiance pour ton avenir, pour ton devenir. Or, la Bible dit, quand nous le cherchons, il nous écoute à la réalité. L'autre définition de la prière, j'ai dit, la prière est le moyen, est pour nous le moyen de devenir partenaire avec Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre. Et Jésus lui enseigne ça dans Matthieu 6, verset 9 à 10. Il dit, il enseigne le Notre Père, et il dit que pour qu'on puisse voir les choses de Dieu, on a besoin d'être partenaire avec Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour cela, tu as besoin d'être partenaire. Ça me rappelle l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand Adam était dans le jardin, la Bible dit qu'il était tellement focalisé sur Dieu, il était focus sur Dieu qu'il ne savait même pas qu'il était nu. C'est quand il a péché qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Parce qu'il était dans une intimité avec Dieu qu'il ne savait pas qu'il était nu. Parce qu'il prenait tout son plaisir en l'Éternel. Est-ce que toi, tu prends vraiment plaisir en Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes les choses de Dieu? Adam était focalisé sur Dieu. Donc, notre partenaire le plus sûr, c'est le Seigneur. L'autre définition de la prière, je dis la prière, c'est le nerf moteur qui déclenche la puissance de Dieu. Les gens cherchent la puissance dans les pratiques mystiques, dans les pratiques des médiums, etc. Dans toutes ces pratiques, voilà, dans les pratiques occultes, les gens cherchent la puissance.
avec les gens qui ont horoscope. Horoscope, c'est pas biblique. C'est pas l'horoscope qui va déterminer ton lendemain, c'est le Seigneur. Alléluia.
Amen.
C'est le Seigneur qui met des temps et des saisons, qui va déterminer ton lendemain, c'est pas les horoscopes. Donc c'est démoniaque. Donc, c'est le moyen, je veux dire, la prière est pour nous, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit ici, le nœud, il déclenche la puissance de Dieu. Vous savez, Anne, qu'elle était mortifiée par Pénina dans 1 Samuel 1, la Bible nous déclare que chaque jour, elle la mortifiait, elle se moquait d'elle. Mais Anne va comprendre que la Bible, j'aime bien l'expression que la Bible dit, Anne se leva. Elle en avait ras-le-bol. Elle dit, j'en ai ras-le-bol. Elle a dit à son mari, je ne retourne plus à la maison, je reste ici à ce moment. Elle est restée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Elle a prié, elle s'est levée. Elle a voulu briser, n'est-ce pas, cet obstacle au travers de la prière. Et la Bible déclare qu'elle prie à telle enseigne que le sacrificateur qui était là pensait qu'elle était ivre. Mes amis, la prière déclenche la puissance de Dieu. Je veux la puissance de Dieu la manifester. Mets tes genoux à terre. Alléluia.
Amen.
Vous savez, beaucoup, je dis, aime la facilité. Il veut s'accrocher à des professions internet. Il veut écouter des bizarres. Non. La clé est dans tes mains au travers de la prière.
Amen.
L'autre définition de la prière, j'ai dit la prière. C'est la vision du chrétien. Elle donne des yeux à notre foi. Un chrétien qui ne peut pas alimenter sa foi. L'autre définition, je dis, la prière donne à Dieu la base légale sur laquelle il s'appuie pour agir en notre faveur. La prière est la base légale. Dieu pour agir dans ta vie, il veut que tu pries. C'est pour ça que dans le psaume 65, le verset 3, David a dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute la prière. Gloire à Dieu. Donc, la prière joue un rôle important, déterminant pour l'accomplissement des œuvres de Dieu pour ta vie. Alors, on va voir le premier personnage qui a triomphé au travail. Il y a beaucoup dans la Bible. Mais vous savez, je lisais un jour les réveils de Charles Finney, le revivaliste. Et Charles Finney a dit, il dit, il y a deux moyens pour produire le réveil personnel ou collectif. Il dit d'abord, la vérité de la parole de Dieu qui agit sur les hommes. Mais il dit la prière qui agit sur Dieu. Donc cet homme fini qui a bouleversé les foules à travers ses croisades a compris que la parole de Dieu a un impact, un effet sur les hommes. Mais la seule chose qui peut bouger Dieu de son trône, c'est la prière. Amen.
Amen.
Si tu veux voir le Seigneur se manifester dans ta vie, prie ma soeur, prie mon frère, prie. Donc la prière est notre arme la plus redoutable qui rend toutes choses possibles. Alors, nous allons voir le premier personnage. Le premier personnage, je propose, c'est dans Josué, chapitre 10, verset 1 à 15, qui est un long texte, mais on ne va pas le lire. Mais, quand on lit dans ce texte de Josué, que le pasteur a source, il y a lu peut-être les trois premiers versets. Adoni-Sedec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'est emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec lui, Israël était au milieu d'eux. Et il eut alors une forte crainte, car Gabon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Haï, et tous ses hommes étaient des hommes vaillants, c'était des vaillants héros. Alors bref, alors qu'est-ce qui va se passer? Josué fils de Noun, Josué qui est issu de la tribu d'Ephraïm, il s'appelait autrefois Oshéa. Oshéa, et c'est Moïse qui va lui donner le nom de Josué dans Nombre 13. Le verset 16. Donc, Josué, son nom veut dire Dieu sauve. Alors, dans le dictionnaire hébraïque français, le Sandor, il a dit que Dieu est son aide ou serviteur de Dieu. Donc, le nom de Josué veut dire sauveur, Dieu sauve, Dieu est son aide. Vous savez pourquoi je vais parler un peu de Josué et parler de ce personnage? Vous savez, Josué a appris et à connaître Dieu à travers la foi dynamique de Moïse. Quand Josué était avec Moïse, il regardait comment Moïse se comportait. Il regardait la dimension de foi de Moïse. Et aussi, il a appris aux côtés de Moïse comment Moïse a appris à opérer dans la dimension de la foi. Josué a appris, encore aussi aux côtés de Moïse, il a connu et il a vu comment par la prière, Moïse a repoussé les limites de l'impossibilité. Moïse, quand on lit, il a été pendant 40 jours, 40 nuits, il est resté sur la montagne pour jeûner, prier, chercher Dieu. Et la Bible déclare que quand il est descendu, la gloire de Dieu était sur lui. La gloire de Dieu n'est pas, je dis souvent, nous, ça, à l'église, vous pouvez mettre tous les maquillages que vous pouvez. Vous pouvez mettre tout le lifting que vous voulez. Vous pouvez mettre toutes les périsses. C'est pas ça qui appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on la trouve qu'au pied de la présence de Dieu. Alléluia!
Amen!
Les autres, c'est des apparats. Non! Non. La gloire de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu, mets-toi à genoux, prie. Tu vas voir. Il y a Manaïs, une fois on est allé à un camp d'étudiants, c'était dans les années 94. Et pendant le camp, le pasteur lui dit, mais ma soeur, la gloire de Dieu sur toi. Elle dit, non, la gloire de Dieu n'est pas sur moi. Non, le pasteur cherchait à comprendre. Comment elle dit que la gloire de Dieu n'est pas sur elle? À la vérité, alors cette soeur s'est mariée pendant 2 ans et elle n'avait plus de rapports sexuels avec son mari parce qu'elle a mis dans sa tête que son arrière-grand-mère a eu le cancer du utérus. Donc pour elle, avoir des rapports dans le mariage, son mari, elle allait avoir le cancer du utérus. Comment Satan a mis une mentalité bizarre? Vous savez, il y a des gens qui se promènent avec des forteresses comme ça. Nous, notre arrière-grand-mère, grand-mère fait ça. Donc ça, je ne le fais pas. Ça, c'est des trucs à casser, à briser au travers de la prière. Alléluia! Josué a été trempé dans la dimension de foi de Moïse, mais aussi dans la manière avec laquelle Moïse considérait la prière qui peut repousser les limites et l'impossibilité. Donc, dans le texte qu'on a lu de Josué 15, on constate que même la lune et le soleil sont devenus des sujets de prière pour Josué. Pourquoi? Au verset 12 de ce texte, il est dit, Josué parla à l'Éternel en présence des enfants d'Israël. Au verset 12, il dit, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Au verset 12, 13 à 14. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque toute une journée. Et la Bible ajoute, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix de nous. Où l'Éternel ait écouté la voix de nous. Mes amis, les enfants d'Israël étaient en guerre avec 5 rois des Amoréens. Et Josué a remarqué que la nuit tombait rapidement et il fallait quelque chose, quelques heures supplémentaires pour que la bataille soit, n'est-ce pas, gagnée. C'est en ce moment-là que Josué va venir à la recousse, à la prière. Il dit non. Si la nuit tombe, ces 5 rois-là vont nous détruire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Josué va prier. Alors, Josué a réalisé que là, il y avait quelque chose qui impliquait non seulement l'enjeu spirituel de l'avenir d'Israël et de tout le peuple, la destinée d'Israël. Donc, ils vont entrer en prière. Ils vont commencer à prier. Mais donc, il y a des situations, souvent, quand ça arrive, vous n'avez pas d'autre issue que la prière. C'est vrai. D'autre issue que la prière. Vous savez, quand je suis arrivé en France, on ne voulait pas renouveler mon titre de séjour en tant qu'étudiant. Ils m'ont envoyé, comment on appelle ça là?
Au QTF.
On m'a donné ça 3 fois. Hein, pasteur? Vous savez ce que j'ai fait? Un jour, j'étais en train de prier, puis le Seigneur me dit, va à la préfecture de Versailles, parce que j'habitais du côté de l'Encou et tout, et commence à prier et faire le tour de la préfecture 7 fois. Et je me suis levé, je suis allé. J'ai posé les mains comme ça. Le tribunal qui était là, tout ça. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. 2 semaines après, on m'a appelé. Il dit 2 semaines après. On m'a appelé, dit Joachim, c'est vous Milané, Joachim. Il dit, bon, venez. Dis non.
Alléluia.
La prière fait des choses, mes amis. Amen. Moi, je ne veux pas mettre dans les compromis. Voilà les choses bizarres, je ne veux pas. Dieu m'a envoyé en France, il sait pourquoi m'envoie. Je ne veux pas me mettre dans les compromis, je ne veux pas les raccourcir. Moi, je veux expérimenter la gloire de Dieu. Et j'ai expérimenté au travers de la prière. Amen.
Amen.
Et Josué, qu'est-ce qu'il va faire? C'est moi qui le dis. Alors, Josué, quelque chose va se passer dans son cœur. Je crois qu'il s'est souvenu en ce moment-là de Exode 14, verset 13 à 23. Alors, où Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moi, si j'étais allé le peuple, là, je n'avais pas croire. Les Égyptiens sont là, et puis tu me dis, les Égyptiens que je vois, je ne vais plus les voir. À la vérité, les gars, ils étaient avec les armes, ils étaient avec les chars. Et Moïse dit, vous les voyez, vous n'allez plus les voir. Il faut entrer dans une dimension de foi pour croire ça.
Amen.
Et la Bible dit qu'il va étendre son bâton, la main. Et la main va s'ouvrir. Et ça a marqué Josué. Voir son leader, voir Moïse arrêter les éléments de la nature à cause de sa foi en l'Éternel. Il dit non. Dans cette bataille, moi aussi je vais arrêter tout le système du cosmos. Il va arrêter le soleil et la lune. Et ils vont commencer à exterminer tous ces cinq rois amoréens et l'Éternel combattait pour eux. Alléluia.
Amen.
Pour dire, mon frère, ma soeur, tu peux triompher au travers de la prière. La prière n'est pas réservée à des spécialistes. Si quelqu'un dit qu'il est spécialiste, la prière c'est faux. La prière est réservée à chaque enfant de Dieu que nous sommes.
Amen.
Amen. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le mot maison, c'est le mot oikos. Oikos, tu veux dire famille. Alors, si tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu qui est né, tu fais partie de la famille de Dieu, et la prière doit être ta priorité.
Amen.
Gloire à Dieu. Vous savez, je me rappelle encore une soeur, et elle était à notre assemblée, à Paris 13e, et cette soeur, elle a eu un cancer. Le cancer se passe à Paris subitement, et l'envoie à l'hôpital Bichat, dans le 18e. Et je suis allé la voir, la soeur Angèle était couchée sur lui. Et le médecin me disait, elle va mourir dans quelques heures. C'est fini pour elle parce que le cancer s'est généralisé. Mais c'est pas, je regarde le médecin, il dit, monsieur, elle va vivre. Je dis, mais c'est quoi ça encore? C'est bon, les évangéliques, les évangéliques. J'ai dit, elle va vivre, alléluia.
Amen.
Je dis, faites ce que vous allez faire, moi je vais prier. J'ai dit, soeur Angèle, tu ne vas pas mourir. On a commencé à prier. Il nous permettait que je prie. On a prié. Elle est vivante. Elle était son témoignage a affiché à l'hôpital Bichat. Elle a été guérie de façon miraculeuse. Mes amis, l'église a abandonné la prière. On aime la facilité. On fait tout sur un plateau d'or. Non! Faut te mettre en prière, mon frère, ma soeur. Cherche à prier. J'ai demandé à une soeur. Elle veut se marier. J'ai dit, ok, c'est bien, tu te fais tous les maquillages, tu t'en vas. Pourquoi j'ai dit, tu vas faire, tous les garçons vont passer sur toi et tu vas rester bien. Mais cherche le Seigneur dans la prière et Dieu va te bénir. Faut prier. C'est pas au ciel, on va prier. Comment arrive au ciel, c'est fini. On va voir Jésus tel qu'il est. Alléluia. Mais nous avons donné la prière pour que sur la terre, on puisse prier pour s'emparer des bénédictions, des grâces de Dieu.
Gloire
à Dieu. Donc Josué, au travers de cela, la Bible déclare qu'il a triomphé. Le deuxième personnage avec lequel il est fini, c'est le deuxième personnage, c'est dans 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Alors, 2 Chroniques 4, il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Okay. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta mère est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait
demander.
Alors, je me suis posé la question parce que c'est vrai que sa mère a beaucoup souffert en le mettant au monde. La mère de Jabez, quand on lit, je crois, c'est les commentaires rabbiniques qui disent qu'elle a communiqué constamment à son enfant la souffrance. C'est la preuve qu'elle lui a donnée, elle dit, parce que je l'ai conçu dans la souffrance, je l'ai eu dans la souffrance. Donc, elle a conditionné sa vie dans son inconscience, la souffrance, la malédiction pendant sa grossesse. Ça y est, il y a des moments comme ça. Quand elles sont enceintes, elles sont trop fatiguées. Tu vas voir, quand tu vas grandir, tu vas rien devenir. Non, ça se fait, on ne dit pas ça. Ta vie sera compliquée. Non, il faut le bénir, amen. Oui, mon fils, tu seras béni. Tu seras sous des bénédictions pour ta génération. Dis ça. Mais tu es étonné, après, tu as dit des bizarreries, et puis quand il naît, il est bizarre. Parce que ce que tu dis, il communique avec toi. Donc, Jabez, cet homme-là s'est trouvé conditionné par les liens de la souffrance, les limitations, l'insécurité familiale. Tout ça, il avait tout ça. Alors, moi, ce qui m'a étonné, il apparaît soudainement au milieu d'une généalogie où son témoignage est saisissant. Vous allez voir, quand vous lisez les versets précédents au-dessus du verset, c'est des généalogies. Et puis, un coup, on dit, j'avais pu considérer que c'est vrai. Dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, du coup, il soit considéré que c'est vrai? Alors, Jabez n'avait pas d'autre issue que celle de la prière pour sortir des limites qui lui ont été imposées par la vie. Vous savez, il y a des personnes comme ça, la vie est dure pour eux. C'est comme si tout est fermé. C'est comme si tout ce qu'ils font, rien n'aboutit. C'était la vie de Jabez. Jabez portait un fardeau caché, secret dans tout le monde. Vous avez raison, ils sont toujours sourire, mais ils ont un fardeau qui casse dans leur cœur. Le pasteur n'est pas au courant, personne n'est au courant. Et ils souffrent tout seul dans le secret. Alors si c'est ton cas ce matin, on va prier pour toi pour que Dieu te restaure.
Amen.
Jabez avait un secret qu'il cachait. Chaque famille a un secret. Mais Jabez souffrait. C'est comme une sorte de sentence, une sorte de verdict que sa main a mis sur sa tête comme une épée de Damoclès. Et Jabez ne pouvait pas s'épanouir spirituellement. Jabez était dans les liens de la souffrance. Il était dans les liens de l'angoisse. Mais la Bible déclare que Jabez a fait trois prières. On va voir les trois prières de Jabez qu'on va prier. Alléluia.
Amen.
Alors, premièrement, il est dit,
Jabez invoqua le Dieu. Alors, Jabez, son nom veut dire souffrance comme sa maladie. Son nom veut dire souffrance, son nom veut dire malheur, malédiction. Quand on voit dans l'étymologie hébraïque, c'est vrai, son nom veut dire malheur, souffrance, limitation. Ça veut dire, voilà, tout ça c'était pour lui. Donc, on dit, Jabez invoqua. Le verbe invoquer en hébreu veut dire kara. Kara qui veut dire appeler à l'aide, au secours. Pour sortir de la situation qui te domine. C'est ce que le grec dit et l'hébreu dit. Donc, kara, invoquer, ça veut dire appeler à l'aide, supplier avec des supplications. Donc, la prière qu'il fait là, c'est pas mon Dieu, mon Père, je t'ai béni, amen. Non, c'est pas. Non, c'est pas prière comme ça quand il était dans l'adversité. Quand il était dans, je veux dire, dans la souffrance, il a invoqué, kara, il a appelé à l'aide. Ça veut dire quelqu'un qui a fait ses noyelles. Et puis il a fait, les pompiers, venez. Il fait non. Mais il crie à l'aide. Il crie au secours. C'est ce que Jabez faisait. Alléluia.
Amen.
Il invoqua le Dieu d'Israël en disant. Alors la première prière qu'il fait, il dit, si tu me bénis. Amen.
Amen.
Si tu me bénis. Alors, bénis ici, là, c'est pas la ligne, vous voulez. Non. Parce que souvent nous, on pense que la bénédiction, c'est l'argent. Alors, le mot qui est utilisé en hébreu pour bénir, c'est barak. Comme Barack Obama, barak, barak. Barak, il parle des récompenses. Qui parle des bénéfices et des faveurs surnaturelles de Dieu. Qui parle de la puissance de Dieu. Donc, le gars n'est pas en train de demander de l'argent. Mais il n'est pas en train de chercher le mariage, non. Mais il cherche les faveurs surnaturelles. Il veut la puissance de Dieu parce qu'il sait que sa vie était conditionnée par la souffrance, par la malédiction. Mes amis, c'est important. Demandez la puissance de Dieu. Dans l'église, on a tout sauf la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le Dieu au milieu de l'église, a écrit un pasteur. On ne veut plus donner la place au Saint-Esprit. L'église primitive a évolué, a progressé, en priant par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jabez savait que sa vie était conditionnée, son avenir, il n'y avait pas d'espérance. Mais il fallait que Dieu nous donne la puissance. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans la prière pour briser les chaînes de la malédiction, les chaînes d'angoisse, de tout ce qui nous tient liés. Il dit, si tu me bénis, gloire à Dieu. Non, prochainement, quand Dieu a dit, c'était ça. Bénis là, c'est demander les faveurs surnaturelles de Dieu. La puissance de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les bénédictions matérielles, non. Mais il veut les faveurs surnaturelles de Dieu pour être libéré. Alors, Paul, dans Éphésiens 1, le verset 15, il parle de l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Église, on a besoin de la puissance de Dieu. Cherchez la puissance de Dieu, frères et sœurs. Cherchez la puissance du Saint-Esprit. Cherchez pour triompher. La philosophie ne peut rien faire. Le New Age ne peut rien faire. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont infiltré l'église, les prédications par le développement personnel. Pour mettre l'homme au centre, les gens qui sont cause des pasteurs, qui sont cause de l'homme. C'est n'importe quoi. Le développement de cette une doctrine du New Age. Ça veut dire que l'homme doit s'accomplir sans Dieu. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on veut nous faire croire qu'on peut s'accomplir sans Dieu. Ça, c'est la pensée centrale du développement personnel. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors, si tu es lié au développement personnel, laisse ça. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Amen.
Paul n'a pas triomphé avec le développement personnel, ni les apôtres, ni l'Église. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour briser le joug du péché. Vous savez, il y a des gens qui sont liés par la pornographie, par la masturbation dans nos églises. Ce dont ils ont besoin, c'est de la puissance du Saint-Esprit pour être libérés. Gloire à Dieu.
Amen.
Vous savez, on a été dans un village au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, bon, les gens nous disent que c'est un côté musulman. Mais en réalité, les gens ne sont pas tous musulmans. Je vais dire que c'est une minorité. Mais les gens sont très animistes. Ils ont des cri-cri. Ils ont beaucoup de fétiches. Alors donc, on est arrivé dans un village. On a été proclamé l'évangile. Et il y a des chefs du village qu'on appelle des deux. En fait, ce sont des gens qui sont sur Mali, au Burkina, partout. C'est des gens qui se déplacent avec beaucoup de cri-cri sur leur corps. Et le gars, il peut mettre le feu dans sa bouche, ça sort sur sa nuque. Enfin, ils font des trucs très, très bizarres. Donc, on est arrivé dans ce village. Et puis, ils nous lancent des défis. Ils disent, bon, nous, on va te lancer des défis. Nous, simplement, on est venu prêcher. Et je lui ai dit, c'est bien sûr, je sais que nos prochains cultes, quand on va faire l'église ici, là, je vais venir ici. Il dit, oui, jamais. Mais le gars, il fait des trucs de ouf, quoi, par la sorcellerie, par la magie.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on l'a baptisé.
Amen.
Amen.
Parce que la prière qui fait ça.
Et tous les autres du village, les gars sont venus. Et c'est pour ça que moi, j'aime l'évangile dans les villages. Franchement, c'est chic. Voilà, c'est chic. Il y a les vrais défis, il y a les challenges. Vous voyez les gens, des conversions authentiques. Ce n'est pas des conversions biaisées, non. C'est des conversions authentiques.
Donc, la puissance de Dieu.
La deuxième prière que j'avais, en fait, il dit, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites. Donc, il prie pour les possibilités de Dieu. Alors, le mot limite ici, c'est le mot jébul, qui évoque l'image d'une frontière, d'une barrière, d'un emprisonnement, d'un mur d'emprisonnement. Donc, j'avais compris que tout ce que ça m'a déclaré sur lui, il était dans un emprisonnement. Il y avait une barrière. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Ils sont à l'église, mais ils sont en prison spirituellement. Leur vie là est bloquée. La dépression, un peu seulement, il déprime. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de sortir de ce mur d'emprisonnement. Parce que Jésus a dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Parce qu'il m'a oué pour guérir ceux dans le cœur brisé. Il dit pour libérer les captifs. Jésus n'a pas donné. Quand j'étais aux États-Unis à Chicago voir mon frère il y a 2 ans, je suis allé dans une église. C'était une église baptiste. Et là, le pasteur, je crois que c'était un pasteur du Messie comme ça. Et pendant le culte, il y avait une dame, je ne sais pas, elle a dû trouver des pratiques au culte. Et puis elle a commencé à faire des trucs bizarres. Et puis, j'ai dit non, il faut la calmer. On va appeler les psy. Moi, je dirais comme les psy. Et donc, je dis au pasteur, quand mon frère l'a traduit en anglais, j'ai parlé un peu aussi, il a pris l'enfant, Dieu l'a libéré. Vous savez, j'ai découvert si, avant de quitter la France, il y a tout ce qu'on appelle TDI. Vous avez vu, non? Déchirissement de l'identité. Responsabilité de l'identité. C'est un site, vous avez sur Google, TDI, c'est en France. Même ça, tout aussi en Europe. Vous savez, vous êtes là, vous êtes une personne, et puis vous attendez 3-4 personnes qui parlent en vous, qui discutent avec vous. Et ils disent, pour soigner sa femme, on va chez les psy. Non, c'est n'importe quoi. Je n'ai rien contre les psy. Mais c'est des esprits qui parlent au travers des gens. Nous, on a vu ça au Sénégal. On a fait une croisade à Thiès. Au Sénégal, c'est un pays très, 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 très musulman. On a installé notre podium au quartier de... C'est Ambou 1, une grande zone où il y avait beaucoup de marabouts. Alors, c'est là que j'ai vu qu'au Sénégal, chaque personne a son marabout. Chaque famille a son marabout. Chaque quartier a son marabout. Chaque ville a un marabout. Ça veut dire, nous sommes dans votre quartier ici, chacun a un marabout ici, chacun de nous. Et puis le quartier de la ville ici, il y a un marabout. Et même la grande ville autour, il y a un marabout. C'est vraiment choquant. Ça veut dire que les gens sont enfermés dans des pratiques très bizarres. Donc nous, on n'a rien dit. Mais ce jour-là, on chantait une vieille chanson qui disait « Que tes vives eaux inondent mon âme. » Je vais avoir les vidéos ici. Je vous dis, des gens ont commencé à ramper, des marabouts, des gens, ils ont commencé à ramper, à venir sur le stade. On avait commencé à 19h, on a fini à 3h du matin. Pour dire combien de fois les gens sont dans des prisons spirituelles. Les gens sont liés par la religion. Donc on a besoin de la puissance de Dieu. Je pense en France, de plus en plus, Dieu va envoyer un réveil. Moi, je suis sûr. Moi, j'ai pris pour la première étant en Côte d'Ivoire. Parce que aussi, c'est mon pays. Amen. Mais ce dont on a besoin, c'est, vous avez un petit groupe ici, si vous mettez à prier, à soutenir le pasteur Daniel, son époux, l'équipe qui est là, pour dire, bon, voir cette... Ça, vous pouvez prendre cette ville-là, c'est petit. Vous pouvez prendre la ville-là. Vous pouvez faire 2-3 cultes ici, c'est possible. Moi, je l'ai vu. On était à Paris 13. On arrivait, on était 15 personnes. On a mis une stratégie en place. C'était 10 rues de Pierre Auturé, dans le 13e arrondissement. On arrivait, on était 15 personnes. On a mis une stratégie de prière. On a mis sur toutes les bouches du métro. On a mis des gens d'abord pour évangéliser. Et puis on s'est retrouvés en fait 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, jusqu'à ce qu'on a proclamé sur Paris 13. Au bout des 6 mois, on était 500 personnes. C'est impossible. C'est parce qu'on ne veut pas payer le prix. Laissez le pasteur tranquille. Il a pris de l'âge. Mais vous pouvez jeûner, prier pour que l'église croise. Amen.
Amen.
Vous les jeunes, on était sur TikTok, oui, pour dire, on n'a rien. Faut aller prier.
Gloire à Dieu.
Amen.
Donc, il a prié pour repousser les limites. Et la troisième chose qu'il a fait, la troisième prière, il dit, si tu me préserves du malheur. Donc, il prie pour la protection divine. Alors, le malheur, en hébreu, il y a 3 significations. La première signification, c'est Shara. Shara qui veut dire angoisse, détresse, qui contrarie affliction, péril, souffrance. On voit dans Genèse, d'autres passages. Et le deuxième mot, c'est Ova. Ova qui veut dire ruine, désastre.
Et le troisième mot, c'est Oui. Oui qui dit cri passionné, un cri passionné de chagrin ou de désespoir. Donc, Jabez, il a fait ses trois prières. Et moi, ce qui me plaît dedans, pour conclure, il dit Et Dieu accorda ce qu'il avait
demandé.
Moi, je te mets au défi. Si tu pries, et que tu vois la puissance de Dieu, tu demandes à Dieu d'agir dans ta vie, et que Dieu n'agit pas là, il faut fermer la Bible, reste chez soi. Et moi, j'ai vu, depuis que je suis baptisé le 7 décembre 89, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu Dieu agir dans ma vie, dans les études, dans tout ce que je fais. Pourquoi? À cause de la prière. On peut repousser les limites. Ne sois pas paresseux. La télévision met ça un peu en stand-by. Pour ta vie, pour ton avenir, cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Ne dis pas non, je suis trop fatigué. Oh. Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Je veux penser à vous, monsieur.